hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ, toute cette semaine avec Ariane Mouchkine. Toute cette semaine, jusqu'à vendredi, nous allons pouvoir écouter Ariane Mouchkine qui nous a accordé un entretien dans le lieu de travail, de vie qu'elle occupe depuis des décennies. Je veux bien sûr parler de la cartoucherie Ariane Mouchkine numéro 1. Alors merci de nous recevoir chez vous, à la cartoucherie, et dans un lieu très particulier de la cartoucherie, auquel nous, public, nous n'avons pas accès d'habitude. C'est la première fois que je rentre dans cet antre, qui est une bibliothèque. Est-ce qu'on peut parler de ce lieu et des livres qui y sont ?
Alors, c'est un lieu que nous nommons le temple. C'est un temple qui est, comme souvent les vrais temples, très polyvalent. Puisqu'après tout, les temples, les églises, les temples ont servi d'asile, de lieu de refuge. Voilà. Donc on l'appelle le temple parce que, au cours de nos spectacles, il y a eu des petits hôtels. Quand c'était l'Indiade, il y avait un petit hôtel indien. Quand c'était le Cambodge, évidemment, il y avait des choses cambodgiennes. En ce moment, c'est vrai qu'il est devenu notre bibliothèque il n'y a pas longtemps, parce qu'on y a rassemblé tous les livres qu'on avait déjà, et j'y ai mis une grande partie des miens, parce que j'ai déménagé. Donc voilà, et c'est un lieu calme, presque propre. Bon, il est pas vétuste, mais il est pas très très soigné. Enfin, il est soigné, mais il est un peu vétuste quand même. Je le regarde, je m'en rends compte. Mais enfin, depuis qu'il y a les livres, ça a pris comme ça une espèce de côté luxueux et velouté, qui est agréable. C'est là que les comédiens viennent travailler un peu leurs textes, faire de la diction ou simplement lire quand ils ont un petit moment ou se reposer. Et bientôt, on va mettre une banquette qui va lui redonner son statut de refuge quand quelqu'un vient nous voir et n'a pas où aller. Il peut coucher ici une nuit ou deux.
Alors, je vois que dans la bibliothèque cohabitent Eugène Sue et Kate Millett.
Moi, c'est le propre même d'une bibliothèque. Vous avez été vite. Oui. Oui, mais puis, oui, je regarde, il y a Michelet, il y a la Révolution française, il y a Ségalène, il y a tout. Bien sûr qu'il n'y a pas tout. Il y a une histoire d'une troupe qui a rassemblé comme ça de la documentation. Dans la ronde de nuit, le spectacle des Afghans, il y a un moment où le metteur en scène qui explique son rôle au nouveau veilleur de nuit, lui montre la petite bibliothèque qu'ils ont et lui dit... Là, il y a toute la mémoire du monde, il y a tous les trésors du monde. Et au fond, c'est vrai, même dans une bibliothèque pas très grande, il y a virtuellement tous les trésors du monde.
Quels ont été les livres qui ont compté dans votre enfance ?
Dans mon enfance ? Oh, je dirais les certains classiques, je crois que le Robinson suisse, a énormément compté. Même si c'est qualifié de livre réactionnaire, je crois, par certains, mais ça a beaucoup compté. Le Capitaine Fracasse. Les petites histoires, je me souviens, ma mère me lisait, elle ne me lisait pas Dickens intégral, ce que j'ai commencé à faire plus tard, mais elle me lisait les petites histoires d'après Dickens. Et quand même, après, Victor Hugo, 93, Les Misérables, Les Travailleurs de la Mer... C'est un peu comme la musique. Hein. Moi, j'ai commencé par les musiciens qui donnent des images. Et heureusement, je crois que ça m'a ouvert doucement la musique. Hein. C'est-à-dire les grands romantiques. Et du coup, après, je crois que j'ai reçu les musiques que les mélomanes aiment, puisque les mélomanes, au fond, n'aiment pas Tchaïkovski, Grieg, Rachmaninoff. Tous ces gens-là sont un peu, même Brahms, ils sont pas dans la classe des grandes musiques, mais je les trouve très très importants parce qu'en fond, ce sont des grands musiciens populaires et qui sont tellement évocateurs. D'ailleurs, c'est pour ça que Tchaïkovski a fait des ballets. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose là qui les probablement les mène au théâtre d'une certaine façon.
Et votre enfance était privilégiée ?
Alors moi, je trouve, même si j'ai eu l'enfance de tous les gens qui sont nés en 39. Hein, moi, je suis né en mars 39. Et comme chacun sait, après, il y a eu un événement. Mais en même temps, mes parents ont probablement, qui étaient jeunes et beaux, ont réussi à me... Je me souviens pas, au fond, à part... quelque chose que j'ai compris très, très, très confusément, qui était l'énorme chagrin de mon père quand il comprend que ses parents sont déportés et qu'il ne va plus pouvoir rien faire pour eux. À part ça, moi, on était à Bordeaux, hein, parce que pendant l'exode, ma mère et mon père étaient à l'armée, évidemment, et donc ma mère a mis quelques affaires dans une voiture et elle a fait comme une grande partie des Français. Elle est partie sur les routes vers un endroit qu'elle connaissait, où elle avait des amis, qui était Bordeaux. Donc mon enfance, en fait, c'est Bordeaux. Et moi, pour moi, les bombardements, c'est plutôt des feux d'artifice qu'on allait voir sur la terrasse, parce que mon père ne voulait pas descendre dans la cave. Il préférait mourir en plein air que d'être dans la cave. C'est ce que j'ai compris plus tard, et je le comprends tout à fait. Je crois que je ne serais pas comme lui. Donc on regardait les bombardements sur la terrasse. Ce qui fait que pour la petite fille que j'étais, c'était un peu des feux d'artifice quand même. Donc oui, bien sûr, c'était les traumatismes se sont abattus sur la partie adulte de ma famille, quoi, pas sur moi. J'ai eu de la chance. Il y avait un petit jardin. En fait, ce qui me faisait le peur, c'était les sirènes, je crois. Voilà. Enfin, oui, les sirènes me faisaient peur, mais elles me faisaient peur, pas ce qu'elles annonçaient.
Et votre père avait décidé quelque chose pour vous ? Vous avez eu l'impression que dans l'enfance et l'adolescence, vous étiez libre de devenir qui vous vouliez ?
Je pense que mon père... il a commencé à essayer de décider des choses pour moi quand il a compris que j'allais faire un métier. C'est-à-dire quand j'ai commencé à vraiment penser très sérieusement au théâtre. Là, il a commencé à s'inquiéter. Donc à essayer de décider des choses pour moi, mon père m'aimait, donc ça n'a jamais été un conflit. Il était inquiet, il essayait de me faire briller d'autres mondes.
Mais lui venait d'un monde artistique.
Absolument, mais les artistes ont peur de ce monde pour leurs enfants. Surtout que, lui, il était dans le monde artistique, mais il était aux affaires, il était producteur, donc il voyait bien, quand même, justement, parce que c'était, à l'époque, c'était, comme on disait, c'était des petits producteurs, donc qui risquaient vraiment leur chemise. Hein, c'était pas des grandes multinationales puissantes comme Gaumont, ça. Donc, il voulait pour moi quelque chose d'un petit peu plus sûr. Et quand il a compris que j'allais être une bohémienne, comme il disait, ça l'a inquiété. Mais malgré tout, il m'a énormément aidé. Il m'a soutenu. Il m'a entretenu pendant les 2-3 premières années du Théâtre du Soleil. Je n'avais pas le temps de gagner ma vie. Et il m'aidait. Il a été extraordinaire. Tout en rouspétant. Il rouspétait toujours. Mais... En fond, il était là et il m'aidait.
Pourquoi êtes-vous partie pour Oxford ?
Mais ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'il m'ait fait. Hein. Il m'a dit, tu dois parler anglais, il faut absolument, tu ne parles pas assez bien anglais. Parce que pendant la guerre, ma mère était anglaise, mais pendant la guerre, on ne parlait pas anglais. Hein. On ne parlait pas russe non plus. Valait mieux pas. Hein. Donc, je parlais un anglais comme tous ceux qui apprennent l'anglais à l'école. Un petit peu mieux à un moment donné, parce que j'allais quand même en Angleterre. Chez des amis de mes parents, mais bon. Donc, voilà, il m'a payé une année à Oxford, et ça a été absolument déterminant pour ma vie, puisque c'est là que, en faisant du théâtre universitaire, j'ai compris que voilà, que c'était ça que je ferais, que c'était ça que je voulais vivre. Et je ne savais pas très bien à quel poste. Hein. Je ne savais pas si j'allais jouer, comme je jouais un peu en Angleterre, si j'allais faire de la mise en scène, si j'allais être accessoiriste. Au fond, ça m'importait peu, mais je savais que je serais dans le théâtre. J'ai su, un jour, comme ça, pendant une répétition de Coriolan, le coup de foudre que j'ai ressenti en me disant, voilà, ça y est, j'ai trouvé ma vie, c'est ça. Et je vous répète, ça aurait pu être machiniste, accessoiriste, je n'avais pas décidé. En fait, je n'avais pas décidé parce que je ne savais pas, je n'osais pas penser encore à la mise en scène, ou même à être comédienne. Et tant mieux d'ailleurs, parce que comédienne, je ne le suis pas, je ne suis pas une bonne comédienne. Mais ce n'était pas ça, c'était la création théâtrale, en fait, c'était le théâtre, voilà, ce moment de répétition où tout est possible, où on joue, où on est autre, où on peut créer un monde.
Et vous êtes venu au théâtre parce que vous vous ennuyez à Oxford, c'est ça?
Je ne m'ennuyais pas du tout. Je faisais du théâtre tout le temps. Parce que j'y étais pour
pourquoi
parler,
alors?
J'y étais pour parler anglais, mais j'ai vite compris que bon, si je faisais que de l'anglais, j'allais effectivement m'ennuyer. Mais Oxford était et toujours un endroit.
Oui, parce que vous continuez à y aller très régulièrement.
Oui. C'est un endroit merveilleux. Donc, très vite, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait comme activité. Voilà, tout simplement. Alors, il y avait toutes sortes d'activités. Puis, j'ai vu, il y avait deux troupes universitaires. Une un peu classique et une un peu expérimentale. Voilà. Et je me suis inscrite aux deux. Et j'ai commencé à ne faire que ça. Mais comme je parlais anglais toute la journée, ben, j'ai appris l'anglais. Et j'ai commencé à ne faire que ça. C'est-à-dire... Et il y avait Ken Loach qui était là, qui allait quitter l'université, qui faisait donc, comme c'est la tradition là-bas, une mise en scène qui jouait, c'était un acteur délicieux, et il faisait une mise en scène pour un petit concours. Il y avait plein de choses, c'était très... La vie théâtrale et studentine était, je crois qu'elle l'est toujours, très très dense dans les universités anglaises, et même le théâtre amateur là-bas, est très présent et de très bonne qualité. Et moi, je regrette énormément qu'ici, il n'y ait pas le même intérêt culturel, pédagogique, sociétal même, pour le théâtre amateur. Et donc, Ken faisait, si je me souviens bien, une petite pièce de Christopher Isherwood qui s'appelait « I am a camera ». Et là-dedans, je jouais la landlady, la dame qui tenait la pension. Et voilà, et puis il y avait Anthony Page qui montait. Lui, il était revenu en tant que professionnel, donné de son temps pour faire une mise en scène. Et il y avait à l'autre côté un homme qui allait devenir quelqu'un de très, très important, qui s'appelait John McGrath, qui en plus est devenu un très grand ami. John McGrath était un Écossais et il a fait une mise en scène d'une adaptation de l'Ulysse de Joyce qui s'appelait Bloomsday et qui était extraordinaire. C'était que des étudiants et c'était des grandes choses. Enfin, il y avait beaucoup de travail. On travaillait pendant toute l'année.
Et vous aviez déjà vu des pièces de théâtre, j'imagine.
Ah oui, non, j'allais au théâtre. Mais au fond, j'allais au théâtre, j'adorais ça, mais... La pratique, hein, c'est en pratiquant quand même que les choses... On va au théâtre, ça vous inspire. Et parfois, quand on a déjà pensé faire du théâtre, un spectacle est déterminant. Bon, je pense par exemple que quelque chose, sans que je me le formule, a été déterminant. C'est que j'avais vu quelques années auparavant, quand j'étais très jeune, hein, je crois qu'à 15 ans, quelque chose comme ça. J'avais vu Harlequin, serviteur de 2 mètres de Strehler. Au festival de Menton, je me souviens. Avec Moretti. Et c'est vrai que quand j'étais sortie, je pense que j'avais pensé au théâtre. Je pense que je suis entrée chez nous. J'étais seule. J'étais partie voir ce spectacle seule. Et en rentrant, il y avait en moi comme ça un tel épanouissement de ce que je ressentais, de bonheur au fond. Hein. De bonheur de ce qui s'était passé ce soir-là avec cet immense acteur, ce spectacle qui était à l'époque une des premières versions, donc qui était dans sa vigueur la plus... qui aurait pu être écrasant d'ailleurs, de génie. Mais au fond, ce spectacle-là ne m'a pas écrasée. Il m'a ouvert un monde. C'est pas comme un autre spectacle de Strehler que j'ai vu, que j'ai dû voir. Je sais pas, j'y allais tous les deux jours quand ils sont venus à Paris. C'était les Géants de la Montagne. J'allais voir ce spectacle tous les deux jours. Et chaque fois, soir, je sortais. On faisait déjà du théâtre à ce moment-là. Et chaque soir, je sortais en me disant, bon, j'abandonne. Il a tout fait. Voilà, il a tout pris. J'étais furieuse au fond, peut-être. C'est-à-dire, enfin, j'étais bouleversée et furieuse parce que je me dis, bon, oui, cet homme a tout pris. Il ne laisse plus de place à personne. Et j'ai mis du temps à me remettre des Géants de la Montagne. J'ai mis du temps à dire, ben oui, voilà, tu es un génie, voilà, très bien, tu es un génie qui a tout pris, ben voilà, fais autre chose. Enfin. Mais Arlequin, serviteur de 2 mètres, non, c'était comme la statue du théâtre lui-même, Arlequin, serviteur. C'était, voilà, c'était, vous voulez savoir ce que c'est que le théâtre? Alors, c'était ça. Ça, c'était le théâtre, c'était la flamme même du théâtre.
Mais justement, on va l'écouter, Giorgio Strehler.
Nous avons commencé ce travail sur l'Arlequin valet de 2 mètres à Le serviteur de 2 mètres en 1947, dans le vide absolu, le vide du public. Donc c'était un acte très courageux, si vous voulez, chose qui ne semble pas possible, mais c'était une folie. Moi, je l'ai monté comme une folie. Nous l'avons faite, c'était le dernier spectacle de notre première saison d'un théâtre qui naissait en ce moment-là, dont il y avait des responsabilités chaque jour, c'était la survivance ou pas. On a eu, au bord de l'été, cette idée de monter l'Arlequin valet de 2 mètres. Avec qui? Avec quoi? Comment? En quel style? Et avec quel soutien du public? Nul, sûr. Et donc, nous l'avons monté sans filet. Nous avons fait un exercice sans filet, sans avoir de points de repère. On a commencé comme ça, avec courage, et on a cherché avec de l'élan de la jeunesse, avec un petit peu aussi de soutien intellectuel, si vous voulez, mais surtout le soutien de l'art du comédien. On a commencé à jouer. Et on a fait un spectacle. Je me souviens que le soir qu'on a joué l'Arlequin valet de 2 mètres, nous attendions le premier rire. Peut-être. Et il n'est pas venu. Sinon, à la fin du premier acte. Il y a un point précis de l'Arlequin valet de 2 mètres que je ne comprends pas pourquoi. Parce que ce n'est pas un moment très intéressant. C'est Arlequin dans la scène, arrive un type qui lui parle, lui dit allez chercher votre maître. Et étant donné qu'il a 2 mètres, il reste seul sur la scène un instant, il dit moi, je les envoie les premiers que je trouve. Je ne sais pas pourquoi, éclat de rire. À ce point-là, c'était la fin du premier acte à peu près. Mais pendant tout le premier acte, les gens étaient absolument sourds et muets. Après ce premier rire, s'est déclenché quelque chose, et au deuxième acte, ça a commencé à marcher la machine, et le troisième acte, c'était la joie, le triomphe, les choses comme ça. Nous étions aussi étourdis. Et le public, étrangement, il est venu.
Est-ce que la notion de maître, ça existe pour vous?
Oui, bien sûr, la notion existe, ça c'est sûr. Il y a des maîtres, ça c'est sûr. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un maître? Je ne sais pas. Je pense que pour beaucoup de gens, puisqu'on parle de lui, je pense que pour beaucoup de gens, Strehler était un maître. C'était un génie, en tout cas. Voilà. Alors,
pourquoi?
Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'un génie? Je pense que, parce que...
Non, mais par rapport à l'histoire même du théâtre.
Voilà, voilà. Je pense que c'était un des grands génies du théâtre. Ça, c'est indéniable. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un maître? Moi, je pense qu'au fond, un maître, c'est parfois un chef de troupe. On l'appelle, à l'époque de Copon, on l'appelle patron, ou en Italie, on l'appelle maestro. Mais un chef de troupe, je me dis, c'est rarement un maître, parce que un maître, c'est celui qui veut, au fond, qu'à un moment, son élève le quitte. Hein? Et c'est quelqu'un qui supporte la séparation, qui même doit la provoquer à un certain moment. Un chef de troupe, il ne veut pas qu'on le quitte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, alors, c'est vrai qu'un chef de troupe forme des gens, bien sûr. Je ne vais pas nier que le Théâtre du Soleil, en l'occurrence avec moi, forme. Mais moi, je ne veux pas qu'il parte. Hein, je voudrais garder les forces de la troupe. Et donc, peut-être que Strehler n'était pas tout à fait un maître parce que lui aussi voulait garder ses forces, ses amis, ses élèves. Un grand maître, c'est quelqu'un qui effectivement transmet quelque chose, révèle un élève à lui-même, mais après le voit s'envoler avec joie. Je pense qu'un chef de troupe, il faut vraiment une très grande maîtrise de soi-même pour voir partir quelqu'un avec joie. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Je retrouve effectivement...
Vous voulez garder tout le monde?
Moi, si je pouvais garder tout le monde, je garderais tout le monde.
Depuis la naissance du Théâtre du Soleil.
Oui, heureusement, ça ne s'est pas fait. Heureusement, ça ne s'est pas fait parce que nous aurions tous 75 ans. C'est-à-dire que ce serait impossible. Heureusement, dans la douleur, des gens sont partis et ce qui a fait que d'autres sont venus. Et donc, là, il y a des gens au Soleil, depuis mon âge à moi, jusqu'à à peine 20 ans. Et avec tous les. Et ça, c'est très, très précieux.
Vous voulez dire que vous avez toujours gardé la même structure de troupe? Il fallait être le même nombre pour l'aventure.
Non, par exemple, là, en ce moment, nous sommes encore plus nombreux, ce qui nous pose des problèmes financiers énormes. Mais moi, je n'ai jamais défini un nombre. C'était le spectacle qui décidait.
Qui guidait.
Non, mais là, je vous parle sentimentalement. Je veux dire, c'est donc. Donc, entre un maître et un directeur de troupe, la différence, c'est une des grandes différences, c'est ça, c'est que un maître, il révèle des gens à eux-mêmes, il transmet une philosophie, un savoir, une éthique. Bon. Mais il faut que l'élève s'en aille. Et, non, voilà. Et donc, moi, j'aime pas quand les gens s'en vont. Et ce n'est que plus tard, qu'un peu, une fois le chagrin passé, que de nouveau je suis fière de voir ce qu'ils font, vous voyez, ailleurs. Mais le début, je ne suis pas fière, je ne suis pas contente, je n'ai pas envie qu'ils s'en aillent. Et je pense que Strehler était un peu comme ça. Donc c'est, pour moi, ce n'est pas tout à fait un maître. Mais peut-être que ma définition du maître est un peu orientale et que d'autres gens auraient une autre définition.
Vous parlez de révélation. À Oxford, au moment
de coup de foudre, de vocation. Oui. Mais je trouve que c'était une chance. Ça, c'est des choses dont je parle souvent avec des jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Et je me rends compte que c'est une chance extraordinaire de savoir ce qu'on va faire à 20 ans, 19 ans, 20 ans. C'est vraiment... J'ai eu beaucoup de chance de ça. Et en même temps, faut pas qu'ils s'inquiètent non plus, c'est qu'il y a aussi des vocations tardives et il y a aussi des gens qui ont besoin d'une petite traversée du désert avant même de jeunesse. Hein. C'est vrai qu'il y a des traversées du désert quand on est jeune, des moments de vide, et où surtout ce qui menace, c'est une sorte de résignation qu'on essaie de vous inculquer, que je trouve terrible, moi, en ce moment. Enfin, en ce moment, depuis un peu de temps, je trouve qu'on ne dit pas à la jeunesse ce qu'elle devrait entendre. On ne lui donne pas, on lui parle pas de sa responsabilité dans le monde, on ne lui parle pas de toute la part qui lui revient, de tout ce qu'elle a à faire. Et on ne lui raconte que ce qu'elle a à subir, et avec cette terrible... la fin de l'histoire. Enfin, il n'y a pas un concept plus désespérant que ça, et plus faux. Et donc voilà, et je pense que, au fond, je me rends compte très souvent que le Théâtre du Soleil, au fond, a été créé en 64, on a commencé à y penser 2 ou 3 ans avant, Oxford c'était en 58-59, c'était 15 ans, 20, à peine 20 ans après la libération, enfin, c'était, tout était là, donc on était encore, nous, on avait cette chance d'être encore sur la libération. Voilà, ça dit bien ce terme, c'est-à-dire sur tout, pas seulement sur la libération, mais sur tout ce qu'avaient pensé les gens qui valaient la peine pendant la guerre, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient rêvé, tout ce qu'ils avaient projeté. Je me répète là, Laure, parce que je sens que c'est des choses que je répète très souvent, parce que je veux qu'on les entende. C'est-à-dire, je répète très souvent ça parce que je veux que les jeunes entendent le plus souvent possible ça, que le venin du désenchantement qu'on leur inocule du désenchantement et donc de l'égoïsme individualiste le plus triste, enfin le plus sombre. C'est terrible et c'est un mensonge.
Mais croit-on en la jeunesse aujourd'hui et ne faites-vous pas partie d'une génération, justement, en qui on croyait?
Absolument.
Vous incarniez l'avenir.
C'est vrai. Non seulement qu'on croyait en nous, on nous attendait, on nous espérait, on ne disait pas vous êtes en trop. Vous savez, j'avais écrit des vœux l'année dernière que Mediapart m'avait demandé, qu'ils ont publié. Et j'ai reçu beaucoup, 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 beaucoup de réactions très positives à ces vœux, très positives. Vraiment, les gens étaient contents et me remerciaient de ces vœux et les faisaient circuler. Et j'ai reçu deux lettres d'engueulades, mais de gens très intelligents, très bien argumentés, mais d'engueulades très sévères, hein, furieux, de deux personnes furieuses, que j'ose dire que le rôle de la jeunesse était de changer le monde et que tout était à faire. Et donc cette lettre était pour ces deux personnes, c'était pas de gauche quoi. Voilà. Et donc j'étais un peu atterrée. J'ai promis que je répondrais. J'ai toujours pas répondu, pas parce que j'oublie, mais parce que chaque fois que je les relis avant de répondre, elle me laisse squat. Et en particulier, il y en avait un qui disait. Et quelque chose qui est vrai, il dit, comment pouvez-vous dire aux jeunes que la genèse est encore, qu'on en est encore à la genèse, alors que l'Europe s'est construite sur un charnier. Et donc, devant cette image très violente et cette vérité, après tout, et je me dis, mais alors, bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent, ces deux hommes, si intellectuellement élaborés, qu'est-ce qu'ils veulent? Que je commence mes vœux de Nel, qui sont quand même censés être une nourriture. Enfin, quand on fait un vœu, ça veut dire qu'on veut donner quelque chose à quelqu'un. On veut lui donner soit un cadeau matériel, ce qui n'était évidemment pas le cas, soit un petit moment de force. Enfin, qu'est-ce qu'on dit à une jeunesse quand on lui dit, tu sais, tu es né sur un charnier? Oui, et alors? Et la suite? Et la suite, c'est quoi? C'est quoi, la suite? C'est me jeter par la fenêtre? C'est devenir alcoolique, c'est se droguer, c'est devenir épouser le grand banditisme, épouser l'intégrisme le plus fanatique et crétin. C'est quoi? On ne peut pas dire dans des vœux à une jeunette autre chose que ce que je crois moi. C'est-à-dire que, oui, ce sont les gosses qui viennent, il y en a 100 tous les soirs chez nous, des lycéens, des même des collégiens, il y a des profs qui amènent des enfants relativement jeunes, bien préparés, avec, on sent que la classe, avec le maître, avec le prof, a fait un vrai travail. Et ils arrivent, ils sont très turbulents encore, ils crient fort dans le hall. Et après, pendant 3h30, ils écoutent Shakespeare et ils viennent me voir avec les yeux brillants et ils me posent des questions extraordinaire et totalement pertinente. Donc, comment voulez-vous que moi, j'ai pas foi dans ces jeunes-là, hein? Simplement, ce que je voudrais, c'est qu'on leur jette pas un baquet d'eau froide glacée tous les matins sur la tête en lui disant, ne rêve plus, arrête, ne rêve pas, tu seras chômeur, et l'Europe s'est bâtie sur un charnier. C'est pas passé, c'est pas transmettre des valeurs, ça. Il ne s'agit pas de pas le dire, mais justement, parce que il y a eu ça, telle et telle et telle et telle et telle lutte, telle et telle et tel livre, telle et telle personne doivent lutter et nous devons continuer à, je dirais continuer, nous devons recommencer à éduquer nos enfants au courage et à la confiance Moi, je pense qu'on se trompe beaucoup plus souvent quand on ne fait pas confiance, quand on fait confiance. On se trompe, hein, parfois. Moi, je me suis trompée. Il m'est arrivé de faire confiance et de me tromper. Mais quand même, finalement, pas si souvent que ça. Je me dis qu'on a souvent raison. quand on fait confiance. On a souvent raison, pas toujours, mais on a souvent raison. Et cet univers de défiance
qui paralyse. Le théâtre, c'est la transparence par rapport à justement cet univers de défiance dans lequel nous sommes insérés.
Oui. Je ne dirais pas que c'est de la transparence, parce que ce n'est pas tout à fait la transparence. Ça dépend de ce que vous entendez par théâtre quand vous parlez comme ça. C'est-à-dire, vous parlez du milieu du théâtre ? Non. Le milieu du théâtre est aussi...
Je parle de l'essence même du théâtre.
Voilà. L'essence même du théâtre, c'est la poésie. Donc, c'est la poésie faite chair. Donc, ce n'est pas tout à fait la transparence. C'est aussi le mystère. C'est aussi... Et ça raconte des choses abominables. Hein, le théâtre peut raconter, doit raconter. Souvent des choses abominables pour...
Donc, je voulais dire, est-ce que pour vous, c'est une sorte de bulle à l'intérieur de laquelle on doit rentrer? Par exemple, ces jeunes lycéens qui viennent voir Macbeth, qu'attendez-vous d'eux et qu'espérez-vous du théâtre quand
ils
viennent
ici? J'attends de l'émotion. Voilà, j'attends qu'ils soient émus, pas seulement par l'histoire que raconte Shakespeare, qu'ils soient effrayés, pas seulement par le personnage, les deux personnages des deux méchants, mais qu'ils soient émus par la beauté de l'acte théâtral et qu'ils sachent que ça leur appartient. Qu'au fond, ils ont en eux cette beauté, même si ça va s'exprimer dans leur vie différemment. Même si la plupart ne vont pas faire de théâtre, mais qu'ils ont cette capacité de pratiquer un art ou en être de très fins connaisseurs, et ou dans quelques métiers qu'ils vont faire, en cherchant l'utilité, la perfection, il y a du bonheur à trouver. Alors, c'est vrai qu'il y a des métiers ou des travaux qui sont subis et qui ne peuvent pas être autrement que subis. Eh bien, ceux-là, c'est là où je pense que les histoires de retraite doivent être vraiment, discutées âprement. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui mériteraient de partir à la retraite à 50 ans. Et que ça devrait être entendu, ça. Mais qu'il y en a qui ont des métiers qui sont si gratifiants, même si lorsqu'ils sont fatigants, qui sont si valorisants, qui sont si passionnants, qu'effectivement, les retraites peuvent être plus tard. Et c'est ce débat qui, au fond, n'est jamais mené, parce qu'on prend le temps n'est jamais pris, où chacun, le blocage des positions est tel que du coup, les gens ne partent pas à la retraite à 50 ans, même quand ils ont subi un travail épuisant psychologiquement ou détestable, quoi. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des prises de conscience comme ça de cette fameuse pénibilité.
Et le théâtre, c'est pour tous, parce que vous y croyez tellement. Est-ce que c'est pour tout le monde, le théâtre?
Oui, absolument, oui.
Oui, mais tout le monde n'y va pas, hélas.
Non, tout le monde n'y vient pas. C'est pas ma faute, comme dirait l'autre. Mais quand même, par les enfants, par les lycéens, on touche tous les milieux. Et je sais qu'ils parlent à leurs parents de ce qu'ils ont vu. Donc, non, bien sûr que tout le monde n'y va pas. On peut se frapper la poitrine en disant c'est ma faute, c'est ma très grande faute, mais... J'avoue, j'ai cessé de faire ça et je fais de mon mieux. Voilà, je me dis, fais le plus que tu peux, je fais de mon mieux.
Nous allons écouter la voix de Jean Villard au micro d'Agnès Varda. C'est une archive du 3 mai 1966.
Je me rendais compte que par rapport à tout ce qu'il y a à faire du point de vue de la culture populaire, les rapports entre ce qu'il faudrait faire et ce que nous avions fait étaient infimes. C'est que tout ce qui restait à faire était vraiment considérable. Et que quand tel ou tel comédien ne répétait pas, ou tel comédien n'appartenait pas à tes spectacles, il fallait que, prenant un peu ou beaucoup sur sa vie privée, il se pointe dans tel ou tel local de banlieue, et là, dialogue avec le public, répondre aux questions qu'ils peuvent leur poser, ou au besoin, commencer par des choses pas simples à faire, enfin, le principe qui est simple, prendre quelques-uns de nos auteurs et lire. On sait toujours, quand on est un artiste, même si votre culture est réduite, on sait au moins faire une chose, lire tel ou tel texte du français. Et nous n'avons pas cherché des auteurs très compliqués, ni vouloir faire lire le dernier roman paru. Mais c'était aussi bien du Voltaire. par exemple le mot « guerre » ou le mot « paix » dans le dictionnaire philosophique de Voltaire, de lire quelques pages de Diderot, quelques pages de Montesquieu. Nous ne pouvions pas faire autre chose. Ce théâtre d'ancien populaire n'était pas organisé pour pouvoir assumer une directive, une organisation de la culture populaire en France. Mais nous voulions au moins nous donner l'exemple en dehors et hors nos représentations théâtrales et nos répétitions, qui prenaient déjà beaucoup de notre temps. Et je pense que si tous les organismes comme le nôtre le faisaient, il y a bien des choses qui changeraient. Enfin, nous nous appelions populaires. Et s'en tenir simplement à des représentations dites populaires m'a toujours paru une chose importante, la première chose à faire, bien sûr, mais pas suffisante.
Il est en tout cas exemplaire que Gérard Philipe est allé plusieurs fois à la cantine de certaines usines parler des pièces qu'il jouait au TNP ou lire, comme tu le disais, des textes.
Oui, il fallait que ce soit des volontaires.
Oui, absolument. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de volontaires? Est-ce qu'il y en a beaucoup ces dernières années?
Eh bien oui, nous avons tout de même groupé assez rapidement une douzaine de camarades. Et certains y ont trouvé un enrichissement personnel important.
Et avez-vous l'impression que par rapport aux vœux de Jean Villard sur le théâtre national populaire, on ait toujours gardé la même vitalité de cette nécessité?
Alors moi je ne peux répondre qu'en mon nom. Voilà, parce que c'est moi, je veux dire, je peux répondre que d'ici, sous ce toit, dans ce théâtre, avec mes amis, je crois que, oui, on a gardé la même nécessité. Voilà. Je pense que j'ai la même émotion.
Justement.
Bon, ça, c'est pas, je pense que quand j'ouvre la porte le soir, j'ai la même émotion de les voir arriver, de voir leur... soit leur, quand ils me disent « Est-ce qu'il y a des toilettes ?» Je sais que c'est la première fois qu'ils viennent. Et quand ils me disent un mot gentil, je sais que ça fait plusieurs fois qu'ils viennent. Voilà. Et quand il y a très très souvent, tous les jours, des gens qui me disent, vous savez, c'est ma mère qui m'a amenée. Regardez, je vous amène ma fille. Voilà. En fait, c'est ça aussi. Hein. C'est-à-dire que le fait qu'on ait duré, parce que bon, on a duré jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Hein. On ne sait pas de quoi demain est fait, mais nous fêtons nos 50 ans. C'est rare une troupe qui dure 50 ans. Je crois que c'est probablement unique. Mais même les grandes qui, pour moi, ont été des maîtres, justement, hein, quand je pense à Coppeau, quand je pense à Dasté, ce sont des troupes qui n'ont pas eu ce bonheur. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens, parce que c'était trop dur. Et donc, c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez, qu'il y a encore des gens qui sont venus nous voir avec leurs profs, ici, à la Cartoucherie. Je ne parle même pas du début. Il y a des gens qui étaient là au moment du tout début. Mais... si on prend, nous sommes arrivés à la Cartoucherie en 70, il y a des gens qui sont venus voir 89, ils avaient 12 ans, et c'est vrai, ils en ont 62 maintenant, et ils ont amené leurs enfants et leurs petits-enfants. Les dimanches, c'est très étonnant, les dimanches, parce qu'il n'y a pas les lycéens les dimanches. Et donc on a l'impression que la salle est plus âgée, et en fait, ils arrivent avec leurs enfants et leurs petits-enfants. Et donc ça donne un dimanche après-midi... où je regarde les têtes et je me dis, eh ben oui, eh ben, ça ressemble aux têtes du livre merveilleux d'Isis sur Jean d'Asté à Saint-Étienne. Voilà, c'est des regards comme ça et des gens qui ont décidé d'amener leurs petits-enfants ou le contraire, ou des enfants qui amènent leurs parents, parce qu'ils étaient en province. Enfin. Et donc je ne veux pas me... voilà, je ne vais pas me morfondre à me dire « j'ai pas le public populaire » parce que quand même, il y en a. Voilà. Hein. Et donc, c'est pas tout, c'est pas autant qu'on voudrait. Voilà, c'est sûr, c'est pas autant qu'on voudrait. Mais il y a quand même du travail qui a été fait et il n'est pas négligeable. Voilà, on ne peut pas non plus cracher sur tout ce qui s'est passé en disant « ça n'a pas été... » Il y a des jours, hein, comme ça. Il y a des jours, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que tout d'un coup le monde devienne comme ça? Comment ça se fait? Où est-ce qu'on s'est trompé? Il y a certainement des moments où on n'a pas. Mais continuons. Ben voilà, faisons mieux. Faisons mieux. Cherchons, faisons mieux.
Et comment faire mieux?
Bon, écoutez, c'est ma grande question en ce moment, donc je ne vais pas y répondre. Comment faire? Comment transmettre mieux? Comment faire pour que les enfants apprennent vraiment à lire à l'école? Il y a tout ça qui se pose. Je pense qu'il y a des professeurs qui sont aussi dans le doute, dans une interrogation douloureuse. Quand, ouais, hein, voilà, donc, moi ça ne... J'avoue, alors, quand je vois que le président de la République nous parle de tablettes numériques comme seul programme de l'éducation nationale, les bras m'en tombent et franchement, j'ai envie d'aller pleurer très loin. Voilà ce que vous voulez que je vous dise. C'est-à-dire que, alors que les grandes questions, ben, c'est pas ça. Les grandes questions, c'est la langue, la lecture, qu'ils arrivent à exprimer une pensée en ajout. C'est ça qu'il faut reprendre. Et c'est ça ce que hurlent les professeurs. Je ne parle pas des organisations professionnelles. Hein. Moi, je parle des professeurs qui hurlent leur désarroi en disant, mais qu'est-ce qu'on... Il faut voir que l'histoire est enseignée d'une manière vomitive. Vomitive. Hein. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas de chair, il n'y a pas de personnage. Là, il y a quelque chose de très grave, mais ce n'est pas le problème des tablettes. Hein. Même si, effectivement, les enfants doivent apprendre... se servir d'un ordinateur, et à mon avis, ils s'en servent mieux que beaucoup de ministres. Donc, je suis désolée, parce que je ne veux pas commencer ça, mais c'est vrai que on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête.
Ben on en revient au livre, puisqu'on est chez vous, environné par les livres, on en revient à la notion de texte.
Oui, mais même, j'ai pas envie d'être, comment dire, je vais pas.
Et à l'histoire,
je veux bien comprendre. Si vous voulez, moi, je veux bien qu'on me dise, moi, j'arrive à lire des choses. Quand je suis en voyage, je lis des choses sur ma tablette parce que je peux pas emmener 20 kilos de livres. Donc, j'admets que probablement il y a une génération qui apprendra à vraiment lire sur une tablette et que, bon. Après tout, on n'a pas voulu garder les papyrus, ni les tablettes de marbre, de pierre. Donc ça, je veux bien. C'est pas, moi, j'aime beaucoup l'ordinateur. Je travaille beaucoup dessus. Ça m'a facilité énormément le travail. Mais quand on parle de l'éducation, hein, de l'éducation nationale, on leur donnait des porte-plumes, on leur donne des tablettes. Maintenant, je ne discute même pas ça. Mais ce n'est pas ça. Le problème, en ce moment, n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a une partie des enfants qui arrivent au lycée, pour ne pas dire à l'université, sans très bien savoir lire. Voilà. Eh bien, tant que ce problème-là n'est pas admis par les pouvoirs publics et qu'ils auront beau changer les horaires, faire dans n'importe quel sens, on sera devant des enfants, des adolescents qui... n'ayant pas la langue pour le faire, seront privés de l'égalité d'expression. Parce que ce mot égalité, ça veut dire aussi, c'est pas seulement égalité de moyens, oui, si, c'est égalité de moyens d'expression aussi, c'est égalité de moyens de réception, c'est égalité des moyens de compréhension. Et cette égalité, elle est battue en brèche après la maternelle. Et vraiment, plus les enfants avancent, plus cette égalité est battue en brèche, c'est-à-dire que il y a des enfants qui mettent plus de temps à écrire, à apprendre, et on ne leur donne pas ce temps et ces moyens. Et en tout cas, je crois, moi, j'ai l'impression, pas la méthode non plus, pour devenir des lecteurs fluides, sereins, et donc capables de recevoir, s'ils le veulent, après il y a des questions de volonté, de tout ce que vous voulez, mais de recevoir, s'ils veulent, le trésor de la culture humaine. Mais... Et ça, si on n'a pas les moyens de recevoir le bien commun, alors ça veut dire que ce bien commun est confisqué. Et c'est ce qui est le cas. Voilà. Il est confisqué à tous les niveaux.
Merci à Michel Gassic. Merci à Vincent Lecomte, Corinne Amar, Élodie Royer, Anne Kobilac. On se retrouve demain avec Ariane. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.